Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Le sel de la vie, lettre à un ami » est un bref essai littéraire de Françoise Héritier, anthropologue française reconnue pour ses travaux sur les sociétés et les rapports entre les sexes. Cet ouvrage ne prolonge pas directement son œuvre savante. Il prend la forme libre que son auteur nomme une fantaisie, née en réponse au message de culpabilité envoyé par un ami médecin pendant ses vacances. Cet ami estime avoir dérobé du temps à son travail. Héritier lui oppose une longue évocation de ce qui donne saveur, densité et mémoire au jour. Par listes successives, elle rassemble sensations, gestes ordinaires, rencontres, voyages, joies, désagréments et épreuves. Le livre défend ainsi une attention concrète au vécu plutôt qu'une théorie du bonheur. Son projet consiste moins à prescrire une manière de vivre qu'à montrer comment les expériences sensibles, même fugaces, forment une réserve intérieure. Cette méditation personnelle invite aussi chaque lecteur à identifier les éléments singuliers qui composent son propre rapport au monde. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une lettre contre la culpabilité de se soustraire au travail. Le point de départ du livre donne une orientation précise à son propos. Un médecin écrit durant une semaine de congé, vécu comme du temps volé à ses obligations et à ses patients. Françoise Héritier répond à cette culpabilité non par un argument moral abstrait, mais par une accumulation de moments qui justifie pleinement le temps vécu pour lui-même. Le problème visé est donc la tendance à considérer le repos, la disponibilité ou le plaisir comme des retraits illégitimes par rapport au devoir. La lettre rappelle que le dévouement professionnel peut devenir une dépossession lorsque toute expérience personnelle est reléguée au rang de faute ou de distraction. Cette position ne réduit pas la valeur du travail ni celle de la responsabilité envers autrui. Elle interroge plutôt le coût humain de leur absolutisation. Les vacances, les promenades, les échanges, les perceptions et les souvenirs ne sont pas des récompenses secondaires accordées après les tâches importantes. Ils appartiennent à ce qui permet de sentir que son existence est habitée. Le livre acquiert ainsi une portée particulière pour les personnes prises dans des rythmes de service, de soins ou de performance. Il propose de reconnaître que la vie ne se mesure pas seulement à ce qui est accompli, mais aussi à la capacité de recevoir ce qui arrive et de conserver du temps pour cela. Deuxièmement, la liste comme forme de mémoire sensorielle et non comme catalogue de conseils, la forme énumérative constitue le dispositif central de Le sel de la vie. Héritier ne construit ni récit suivi, ni démonstration universitaire, ni méthode de développement personnel. Elle enchaîne des notations qui font émerger des expériences par association de sensations, de lieux, de gestes et de souvenirs. Ce choix est cohérent avec le sujet. Les moments qui donnent du goût à une existence ne se présentent pas toujours sous la forme de grands événements ordonnés. Ils reviennent souvent par une odeur, une lumière, une musique, une texture, une scène aperçue ou un mouvement du corps. La liste respecte cette discontinuité de la mémoire et laisse coexister des éléments hétérogènes. Elle dessine aussi, par touche, un autoportrait indirect de son auteur, marqué par les voyages, la culture, les relations et les épreuves, sans devenir une autobiographie détaillée. Cette forme peut toutefois dérouter. Certains lecteurs la jugent répétitive ou trop longue lorsqu'elle est lue sans interruption. Sa force apparaît davantage dans une lecture fragmentée, qui permet à chaque évocation de produire des résonances personnelles. Il importe donc de ne pas confondre cette succession avec une liste de choses à imiter. Les éléments retenus ne valent pas comme programme universel. Ils montrent plutôt comment l'attention portée à ses propres traces sensibles peut transformer des souvenirs dispersés en matière de réflexion. Troisièmement, le sel inclut les plaisirs, les contrariétés et les expériences de vulnérabilité. Le titre pourrait faire attendre un simple inventaire de petits bonheurs. Or, la notion de sel est plus large et plus ambivalente. Comme le sel relève un plat, il désigne ce qui donne relief et intérêt à une vie. Dans les évocations de Françoise Héritier, les plaisirs simples côtoient des émotions plus rudes, des déceptions, des remords, la colère, la maladie ou les sénesses hospitalières. Cette coexistence évite de réduire le livre à une injonction optimiste. Une existence n'acquiert pas de profondeur, parce que tout y serait agréable, mais parce que le corps et la mémoire en retiennent des impressions contrastées. Les expériences pénibles peuvent elles aussi devenir des repères, non parce qu'elles seraient souhaitables, mais parce qu'elles appartiennent à une histoire vécue et à une capacité de persister. La présence de la vulnérabilité donne un poids particulier à la célébration des choses ordinaires. Observer un matin, partager un repas ou sentir une présence ne relève plus alors de la banalité, mais de la conscience que ces possibilités sont fragiles. Le texte ne prétend pas résoudre la souffrance par la gratitude. Il affirme plus modestement que les réserves de sensations, de liens et de souvenirs peuvent empêcher les jours difficiles de se réduire à leur seule dureté. Cette nuance distingue la méditation de Héritier des discours qui assimilent le bonheur à une disposition volontaire et permanente. Quatrièmement, le rôle décisif des sens dans la construction du rapport au monde, le livre accorde une place constante aux perceptions. Voir, écouter, toucher, goûter, sentir et se mouvoir ne sont pas de simples ornements descriptifs. Ces opérations constituent le moyen par lequel le monde devient personnellement significatif. Une scène, un aliment, un paysage, une chanson ou un contact physique peuvent rester durablement présents parce qu'ils ont été inscrits dans le corps avant de devenir un souvenir organisé. Cette attention sensorielle rejoint une idée explicitement associée dans les commentaires au sensualisme de Condillac. Le réel se forme pour chacun à travers les sensations avant de prendre place dans une pensée ordonnée. Chez Héritier, cette perspective ne se présente pas comme un cours de philosophie. Elle nourrit une écriture précise qui fait de la sensation un accès à la mémoire et à la singularité. L'intérêt analytique de cette démarche tient à son refus de séparer fortement intelligence et sensibilité. Les expériences les plus modestes peuvent contenir une densité affective et intellectuelle, à condition de ne pas être traversées mécaniquement. Cette place accordée au sens explique aussi la diversité des éléments évoqués, depuis les habitudes domestiques jusqu'aux voyages ou aux rencontres. Le livre suggère que conserver une aptitude à percevoir demeure une pratique essentielle tout au long de la vie. Il ne demande pas de multiplier les expériences exceptionnelles, mais de ne pas laisser les expériences disponibles perdre toute présence sous le poids de la routine. En dernier lieu, une invitation à composer un inventaire intime plutôt qu'à adopter celui de Héritier. La portée du livre dépend largement de la manière dont le lecteur reçoit les listes de Françoise Héritier. Elles sont profondément situées dans une biographie, une génération, des goûts et des déplacements qui ne peuvent être universels. Certains détails pourront sembler étrangers ou éloignés de son propre vécu. Cette limite est en réalité au cœur de la proposition. Le texte ne soutient pas que les mêmes scènes procurent à tous la même intensité. Il met en évidence le fait que chacun possède un répertoire particulier de lieux, de personnes, de plaisirs, de peines et de gestes mémorables. Lire devient alors un exercice de comparaison intérieure. Une évocation de Héritier peut faire surgir chez autrui une image entièrement différente, mais deux fonctions analogues. Cette dynamique explique pourquoi le livre conduit fréquemment à vouloir noter ses propres souvenirs ou à tenir un carnet. Il ne fournit pas de procédure rigide pour y parvenir. Sa contribution est de rendre visible une matière souvent négligée parce que trop familière ou trop fugitive. Le lecteur peut ainsi distinguer ce qui relève de ses désirs réels de ce qui découle seulement des attentes sociales. Une réserve demeure, le texte risque de paraître monotone à qui attend un récit, une intrigue ou une argumentation progressive. Il convient donc de le lire comme une série de déclencheurs de mémoire, dont la valeur réside moins dans leur exhaustivité que dans la réflexion personnelle qu'ils rendent possible. En conclusion, le sel de la vie convient au lecteur qui recherche une méditation brève sur les expériences ordinaires, aux personnes confrontées à une fatigue liée au travail ou aux soins, ainsi qu'à celles qui apprécient les formes fragmentaires de prose. Il peut aussi intéresser les lecteurs de Françoise Héritier désireux de découvrir une facette moins académique de son écriture. Le bénéfice principal ne réside pas dans un ensemble de conseils à appliquer, mais dans un déplacement de l'attention. Le livre aide à considérer les perceptions, les habitudes et les souvenirs comme une ressource de connaissance de soi, sans les confondre avec de simples distractions. Il peut nourrir un travail personnel de notation, de remémoration ou de discussion avec des proches sur ce qui compte réellement dans une existence. Par rapport au recueil, consacré au plaisir minuscule, cet ouvrage se distingue par son origine épistolaire et par la tension éthique qui le traverse répondre à la culpabilité de vivre pour soi lorsque le devoir paraît sans limite. Il se distingue aussi par la voix d'une anthropologue, attentive aux sensations, tout en sachant que les expériences sont façonnées par des histoires individuelles et des mondes sociaux. Sa forme de litanie ne conviendra pas à tous et peut lasser dans une lecture continue. Mais cette absence de récit conventionnel est également sa singularité. Héritier ne cherche pas à produire une leçon définitive sur le bonheur. Elle compose un espace où plaisir, perte, corps, mémoire et disponibilité au présent peuvent être envisagés ensemble. Le livre se lit alors moins comme un modèle de vie que comme une invitation à reconnaître son propre inventaire intime. Si vous souhaitez soutenir Françoise Héritier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!